Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous donne cette occasion de parler de sa part pendant ces moments. Et nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom puisque tu as été avec nous durant toute la semaine. Tu nous as protégés, tu nous as donné la santé. C'est pourquoi nous pouvons nous mettre devant toi pour parler de toi et pour te remercier, pour te faire un culte qui te soit aussi agréable. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes. Nous prions que tu nous diriges du début à la fin, que ton esprit soit en œuvre. Utilise-moi comme l'instrument entre tes mains. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13, du 1er au 13e verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, 1 à 13. Il est dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, chercha à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant de personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut et étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergue en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous sommes ici dans un contexte où c'est l'église d'Antioche qui envoie des missionnaires. Et cette église va envoyer des missionnaires sous l'impulsion ou bien conduit par le Saint-Esprit. Et il envoie des missionnaires Paul et Barnabas à l'ouest. Et c'est dans l'île de Chypre où ils sont envoyés. Et nous allons répondre dans cette méditation à trois questions. La première est la suivante. Qu'est-ce qui entre en jeu dans la mise à part et l'envoi de Paul et Barnabas? La deuxième question, en quoi joue Bar-Jésus qui prouvera qu'il est un faux prophète? Et en troisième lieu, nous allons répondre à la question, comment Paul, rempli du Saint-Esprit, va-t-il agir à l'égard du faux prophète et quels sont les résultats? Et enfin, nous conclurons ce message. Qu'est-ce qui entre en jeu dans la mise à part et la voix de Paul et Barnabas? Ce qui entre en jeu ici, c'est plusieurs choses. Premièrement, à l'église d'Antioche, il y avait une grande potentialité. Il y avait des docteurs et des prophètes. Et ici, on nous parle de 5 leaders qui ne sont pas de même classe ni de même race. Ils sont divergents et ils sont seulement réunis pour la cause du Christ. Ils ont cru au Seigneur Jésus et ils sont là pour annoncer la bonne nouvelle. Et ils sont entrés, au verset 2, on nous parle qu'ils étaient entrés de servir le Seigneur. D'autres versions parlent de faire un culte pour le Seigneur. D'autres disent qu'ils étaient entrés d'adorer le Seigneur et de jeûner. Et c'est dans leur prière, dans leur service pour le Seigneur, que le Saint-Esprit va leur dire expressément, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. » Et donc, nous trouvons que, premièrement, c'est puisqu'ils étaient ensemble et que l'Église avait des potentialités, mais aussi puisqu'ils étaient unis dans le service du Seigneur. Le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a dit cela au travers de leur culte et de leur prière. Et quand le Saint-Esprit leur dit cela, ils vont encore prier et jeûner, et ils vont envoyer, alors ils vont imposer les mains pour signe de communion avec ceux qui seront envoyés comme missionnaires. Et nous voyons Paul et Barnabas au verset 3 qui vont être envoyés et ils vont partir au verset 4. Ils partent pour Chypre. Chypre, c'est une île qui est à l'ouest d'Antioche. Et ils vont emprunter la voie qui est trop familière c'est une voie accessible où l'Empire romain avait la facilité de contrôler aussi toute cette partie. Et ici, dans les textes, nous verrons plus tard que c'est l'Empire romain qui a envoyé là un gouverneur. Et nous allons en parler. Mais voyons que le Saint-Esprit va les guider jusque dans cette île et ils vont annoncer la parole de Dieu à partir de Salamine, qui est la grande ville aussi, cette grande ville de Chypre. Et là, ils vont annoncer la parole de Dieu dans les synagogues. Les synagogues, c'était un lieu qui pourrait les faciliter à trouver la plupart des gens. Et aussi, nous devons comprendre que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils vont faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Et nous verrons même plus tard, au verset 14, on va nous dire que Paul et Barnabas sont partis dans une autre ville, mais ils vont entrer aussi dans des synagogues. Les synagogues les permettraient à voir les gens facilement. Et ici, premièrement, ils s'adressent, comme nous l'avons vu la semaine passée, ils s'adressent aux Juifs dans l'objectif de voir les Juifs être convertis et accepter le Messie, donc de, d'accepter Christ comme le Messie et de suivre ce Christ-là et être des agents aussi de l'évangélisation, ceux qui vont évangéliser d'autres personnes. Et donc, partout, nous pouvons voir au chapitre 14, au chapitre 17, nous verrons que surtout Paul est envoyé dans une ville et il va chercher à rencontrer les gens dans des synagogues pour dire que c'est un lieu qui est bien cosmopolite où on pourrait voir beaucoup de gens au même instant. Et à la deuxième question, en quoi joue Bar-Jésus et qui prouvera qu'il est un faux prophète? Bar-Jésus, il est dit au verset 6 qu'il était vraiment un faux prophète juif et qu'il était en train de détourner, de vouloir détourner Sergius Paulus à la foi, le gouverneur, on appelle ici proconsul. Le proconsul voulait attendre la parole. Il a d'ailleurs invité Paul et Barnabas pour qu'ils puissent être évangélisés ou bien pour qu'ils attendent ce qu'ils sont en train de dire, cette bonne parole de Dieu. Et c'est Bar-Jésus voudrait le détourner. Bar-Jésus signifie tout simplement « fils de Jésus ». Mais « fils de Jésus » ici n'a rien à faire avec Jésus-Christ, je dois le souligner, puisque à ce temps-là, c'est le nom populaire donné à tout juif. Donc, n'importe qui pourrait porter le nom de Jésus. Et ici, on l'appelle aussi au verset 8, « Elimas », qui signifie « magicien ». Et donc, Bar-Jésus voulait détourner la foi, de la foi le proconsul. Bar-Jésus a vu que son travail finirait si le proconsul croyait à l'évangile. Alors, c'était ça son rôle et cela prouve réellement que en s'opposant à Paul et à Barnabas, ou bien à la parole, à l'évangile, il est vraiment un faux prophète. À la question 3, comment Paul rempli du Saint-Esprit va-t-il agir à l'égard du faux prophète et quels sont les résultats? Je voudrais d'abord souligner ici le fait qu'au verset 9, on parle de Saul. On dit ceci, alors Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, je vais suivre après. Quand on parle de Saul et de Paul, beaucoup de gens pensent que Saul, c'est le nom de Paul avant sa conversion, mais non. En fait, les Juifs qui avaient la nationalité romaine avaient toujours deux noms. Et ils avaient un nom juif, mais aussi un nom romain. Alors, quand on parle de Saul, il est chez le juif, mais quand on parle de Paul, il est chez le... Bon, dans une terre romaine. Et donc, ce n'est pas un nom qui est venu après son salut, mais c'est son nom toujours. Donc, beaucoup de juifs avaient deux noms. Ces juifs-là qui étaient déjà de nationalité romaine. Ils avaient deux noms juifs et un nom romain. Et alors, continuons, disons que... rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Ici, nous trouvons que Paul a fixé le regard. Autrement dit, Paul a dit clairement ce qu'était le magicien Bar-Jésus. Il n'a pas fait de tournure pour lui dire la vérité, puisque rempli du Saint-Esprit, il a vu et il a dit ce qui était vrai, et jusqu'à dire qu'il est le fils du diable, pour ainsi dire qu'il est dans le faux. Il n'est pas un homme de bien. Et quand il n'est pas un homme de bien, donc il ne fallait pas qu'on puisse lui donner, qu'on puisse faire confiance à lui. Et plus tard, quand Paul va dire tout cela, voici ce qui va arriver. Il dit à ces magiciens-là, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait à tantôt de personnes pour les guider. On voit que dans ce que Paul dit, il y a une grande vérité, mais aussi l'Esprit de Dieu va faire à ce qu'il puisse même donner une sentence à ses proconciles et amener le proconcile à voir vrai. Mais il va donner la sentence plutôt aux magiciens. Et ce magicien ici va faire tout ce qui est à son pouvoir, puisqu'il faisait tout ce qui était à son pouvoir pour détourner le proconcile. Ici, ce qui va arriver plus tard, c'est que le magicien ne va plus voir le soleil et il va commencer à tâtonner. Il va commencer à faire du n'importe quoi pour chercher qui peut l'aider à marcher et à trouver le chemin. C'est pendant un temps qu'il était dans l'obscurité. Alors, le proconcile envoya cela. Nous sommes dans les retombées de ces résultats. Ou bien nous sommes dans les résultats de ce qui va arriver après que Paul ait décelé et montré le vrai visage du magicien. La parole de Dieu nous dit au verset 12, « Alors le proconcile voya ce qui était arrivé, crut, frappé par la doctrine du Seigneur. Il a cru à l'évangile. Il a cru, étant frappé par la doctrine, mais aussi quand il a vu ce qui était arrivé à Élimas par Jésus, combien la puissance de la parole de Jésus était supérieure à la magie qu'avait Élimas. Et c'est quand Élimas commence à marcher et à chercher quelqu'un pour les guider, le proconcile comprend effectivement que il y a une grande puissance dans la parole de Dieu. Et il est appelé aussi à croire et il va prendre une bonne décision et croire à Jésus-Christ. Ici, nous pouvons attirer quelques leçons. Premièrement, nous trouvons qu'à l'église d'Antioche, les gens des classes et des races différentes ont été tous au service du Seigneur pour l'édification de l'église. Nous devons dire aujourd'hui à nos églises et à tous ceux qui dirigent les églises, il y a des gens qui sont venus de telle part et que nous ne connaissons pas, mais qui ont cru à Jésus, qui ont aussi des potentialités, qui ont aussi des dons. Laissons-les travailler pour que l'Église puisse être édifiée par leurs dons. Ne minimisons pas, ne nous discriminons pas à cause de nos origines, mais voyons ce que Dieu nous donne et profitons-en. En deuxième lieu, nous trouvons que tant rempli du Saint-Esprit, on affronte l'ennemi sans peur. Paul, lui qui était un homme, mais rempli du Saint-Esprit, il était à mesure de parler clairement aux magiciens sans avoir peur ni une crainte quelconque que peut-être ceci va m'arriver ou pas. il était rempli du Saint-Esprit. Donc, nous devons aussi avoir cette soif et demander au Saint-Esprit de nous remplir pour que nous soyons à mesure de parler sans crainte, sans peur et de dire les vérités de Dieu. Pour que ceux qui détournent la parole de Dieu, ceux qui veulent détourner les gens de la vérité, se sentent humiliés devant cette parole. Puisque la parole de Dieu nous dit que tout genou fléchira. Il faut que ces magiciens, que ces sorciers, que toute personne, ces occultes, ces hommes occultes qui veulent à ce qu'il n'y ait pas des gens qui croient à l'évangile, soient persuadés, soient dit face à face qui sont dans l'erreur et qu'ainsi les autres viendront et croiront à l'évangile. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que cette puissance de l'évangile puisse être manifeste. Nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour qu'il y ait des signes qui accompagnent les paroles et avec les paroles de Dieu et qu'il y ait des gens en voyant ces signes. Il y a d'autres qui, ne voyant pas les signes, ne sont pas à mesure de croire. Mais les signes donnent l'impression et donnent une, je dirais une clé pour leur montrer clairement que c'est Dieu qui est en train de parler et il est supérieur à tous ceux qui sont en train d'agir, à tous ceux qui font de blabla et qui trompent les gens. Il a été souvent dit que dans le monde des aveugles, le borgne est roi. Pour dire autrement que, il y a des Elimas partout où nous sommes. Et c'est dans beaucoup de domaines qu'on pourrait même les trouver. Il y a des hommes intelligents. On nous a dit ici que le proconsul était un homme intelligent. Mais les hommes intelligents qui sont mentis, qui sont détournés par la voix et par les paroles que donnent ces faux prophètes. Alors qu'ils sont vraiment faux, nous devrions faire tout pour que la parole de Dieu puisse avoir cette force-là. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que cette parole et les signes puissent s'en suivre. Et aussi, il y a une autre chose. Les gens qui ont été sauvés, qui ont été transformés par la parole de Dieu, ont montré que réellement Dieu était victorieux. La victoire de l'évangile sur la magie a été manifeste par la conversion du gouverneur qui a attendu la bonne nouvelle et qui a vu les signes comme nous l'avons dit. Mais aussi ici, nous devrions souligner une chose. La parole de Dieu transforme aussi les gens puissants et intelligents. Peu importe la classe dans laquelle vous vous trouvez ou le niveau auquel vous êtes déjà élevé, vous avez toujours besoin de la parole de Dieu. Elle est au-dessus de notre intelligence, mais aussi cette parole est donnée pour sauver toute personne, qui qu'il soit. De quelle race qu'il soit, de quel niveau qu'il soit, il doit recevoir la parole de Dieu. Puisque sans elle, la personne restera toujours dans les tâtonnements. La personne sera mentie, sera trompée par ceci ou cela. Nous avons besoin de cette parole de Dieu. Comme ces gouverneurs, je voudrais inviter donc les hommes politiques aussi à savoir qu'ils sont toujours trompés, ça ne commence pas aujourd'hui. Ils ont été trompés depuis les temps anciens à avoir des magiciens, des féticheurs auprès d'eux, des féticheurs personnels engagés pour les aider, je ne sais pas, dans telle ou telle autre voie. Mais en réalité, avec cette parole, nous voyons clairement que la parole de Dieu peut nous aider et peut nous éclairer et aider même ces politiciens qui ont besoin encore d'un surplus. Avec la parole de Dieu, étant persuadé et étant convaincu par la parole de Dieu, vous n'aurez plus besoin de ces magiciens. Vous n'aurez plus besoin de ces féticheurs qui peuvent vous tromper et qui vous trompent toujours. Vous avez besoin de Dieu, non pas de faux dieux. Vous n'avez pas besoin des faux prophètes autour de vous, mais des vrais prophètes. Aimez la parole de Dieu comme ces gouverneurs Paulus a voulu à ce qu'on lui parle encore de cette parole. Alors, enfin, nous sommes dans un moment aussi de confusion. Quand nous traversons le moment de Corona, le COVID-19 nous fait aussi peur. Je ne sais pas pour quelle raison telle ou telle autre personne voudrait avoir aussi un prophète par rapport à cette situation. Ne cherchez pas ailleurs, s'il vous plaît. La parole de Dieu a des promesses. La parole de Dieu nous dit, même quand nous traverserons les moments difficiles, quand nous traverserons de l'eau, quand nous passerons par le feu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Le feu ne nous brûlera pas. De l'eau ne nous submergera point. Et donc, nous avons à mettre confiance dans la parole de Dieu, même pendant ces moments difficiles. Ne faisons pas des choses pour les faire. Ne croyons pas à n'importe qui pour croire, mais croyons à la parole de Dieu. Pendant ces moments, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour qu'il continue à opérer. Je sais bien que le Saint-Esprit est en train de faire dans votre vie. Et vous êtes en train de voir la main de Dieu qui vous guide jour et nuit, qui vous protège jour et nuit, qui vous donne à manger même quand vous n'avez rien. Et si vous voyez Dieu dans tous les détails de votre vie, ne perdez pas confiance. Ne mettez pas votre confiance dans des fausses prophéties. Croyez à la parole de Dieu et Dieu nous aidera à marcher avec lui. Cette parole est puissante qu'est la magie. Cette parole est puissante qu'est la sorcellerie. Cette parole a des puissances plus que tout ce qui agit dans ce monde, même dans des forces occultes. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne encore son esprit et que nous soyons à mesure de parler de lui comme il le faut. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, te remercions pour cette parole. Tu nous as montré clairement que tu étais puissant. Tu es puissant dans ta parole et tu es puissant par l'évangélisation que nous pouvons faire. Et rien ne peut barricader, rien ne peut cacher ta voix aux hommes. Aussi longtemps que tu veux te révéler, tu te révéleras. Nous prions que ton esprit soit en œuvre pour tes serviteurs, qu'il les remplisse, afin qu'ils soient à mesure de dire la vérité là où ils devront le dire, afin qu'ils soient à mesure de montrer le vrai chemin pour tes enfants et pour ceux qui se perdent. Nous voulons que ta parole puisse nous aider à marcher dans tes voies et à ne plus marcher dans les ténèbres, à ne plus marcher dans le flou où nous confondons le vrai et le faux prophète. Mais nous voulons à ce que tu nous éclaires, que cette parole, toutefois que nous la lirons, nous soyons à mesure de connaître que c'est la vérité et que tu nous amènes dans la lumière. Permets, Seigneur, aussi que cette parole touche les cœurs de ceux-là qui se confient encore dans l'occultisme, qui se confient encore dans la magie, qui se confient dans la sorcellerie, puisque tu es au-dessus de toutes ces forces, Seigneur. Et nous voudrions à ce que tu les touches et que tu les aides, tu les éclaires pour qu'ils ne puissent pas mettre confiance dans des choses vaines, mais qu'ils mettent leur confiance à toi. Nous prions pour notre pays, prions pour les chrétiens dans ces pays où les vrais et les faux sont presque confondus, où la vérité n'a pas de place, où l'injustice a pris d'ampleur que la justice. Intervient, Seigneur, et donne-nous la paix. Donne-nous à voir clair dans ta parole, puisque c'est toi qui peux nous aider. Nous avons beaucoup et pendant longtemps, nous avons essayé de crier au secours aux hommes, mais ils n'ont pas été à mesure. Nous prions que toi seul, tu interviennes. Et dans ces moments difficiles que notre pays est en train de traverser, un moment politique de confusion, nous prions à ce que tu interviennes, que tu fasses grâce pour que nous puissions te voir, Seigneur, en train de régner au Congo et de nous donner la clarté, la vérité, ta justice. Tu nous dis dans ta parole que c'est la justice qui élève une nation. Nous voulons voir cette justice au Congo. Manifeste-toi au travers des hommes et des femmes que tu as choisis, Seigneur, au Congo. Permets qu'ils brillent. Permets qu'ils brillent comme des flambeaux là où tu les as mis, Seigneur, là où ils sont placés. Et qu'ils soient à mesure de distinguer le vrai et le faux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils parlent. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu sois celui qui contrôle notre situation pendant ces moments de COVID. Il y a des malades qui ont besoin d'être touchés, d'être guéris par toi, puisque c'est toi qui peux faire encore à ce que même les ossements qui sont desséchés puissent trouver la vie. Interviens, Seigneur, rien n'est impossible à toi et rien n'est au-dessus de ta force et de ta puissance. Aucune maladie ne peut être au-dessus de ton pouvoir. Viens et fais et agis au milieu de nous et guéris ces malades pour que nous puissions voir comment ils se relèvent et comment ils glorifient ton nom, pour que la gloire puisse te revenir toi seul, Seigneur. Nous prions aussi pendant ces moments difficiles où les uns les autres manquent, comment ils vont vivre. Mais nous te bénissons tout d'abord pour tout ce que tu es en train de faire. Tu nous fais voir que toi qui nourris les oiseaux, tu es à mesure de nous nourrir. Tu nous as nourris pendant tout ce mois passé et nous savons que tu nous nourriras encore. Malgré que la situation peut devenir encore plus grave, nous n'avons pas peur, nous avons confiance à toi. Agis Seigneur et donne à chacun ce dont il a besoin. Et permets à ce que notre confiance à toi puisse se renouveler même pendant ces moments de COVID-19. Nous sommes en train de prier pour ton Église, que ton esprit soit en œuvre et qu'il y ait des signes et des prodiges qui se manifestent en proclamant ta parole, puisque ta parole est la vérité. Et c'est toi qui as dit, Seigneur, que ceux qui croiront à ton nom, ils chasseront les démons. À ton nom, ils feront beaucoup de signes. Nous prions pour que partout où est dit ton nom, Seigneur, partout où on évoque ton nom, qu'il y ait des signes qui suivent cette parole pour amener beaucoup de gens à croire à toi et à avoir confiance à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Nous prions, sachant que tu bénis aussi notre Église, mais tu bénis aussi la foi de ceux qui te suivent, que tu es en train d'augmenter cette foi, même pendant ces moments difficiles, et tu le fais voir ta lumière, tu le fais voir ta bonté, qui se renouvelle chaque matin pour ceux qui te suivent, Seigneur. Donne la force à ceux qui sont fatigués et qui ne savent plus comment dire dans ces moments difficiles, qui ne savent plus à qui crier, puisqu'ils sont déçus par telle ou telle autre situation. Interviens, Seigneur, pour qu'ils te voient en train d'agir dans leur vie et de changer leur situation. Nous prions pour ceux qui traversent les moments difficiles de deuil, sois leur consolateur. Tu ne nous as pas laissés sans consolateur, c'est pourquoi tu nous as envoyé ton esprit. Console ton Église, console, Seigneur, ceux qui traversent les moments difficiles. Nous prions aussi pour que tu arrêtes ces deuils, ces morts qui ne font que s'agrandir du jour le jour. Seigneur Jésus, protège-nous et donne-nous la bonne santé. Permets que nous puissions survécure pendant ces moments difficiles. Bénis notre Église, bénis notre pays, bénis tes serviteurs et bénis la radio. Rao FM, pour ta plus grande gloire, nous prions. Amen.